France Inter.
Le peintre, graveur et sculpteur Gérard Garouste a commencé par le dessin d'humour, la mise en scène et la décoration au mythique palace, tout en étudiant en autodidacte au Louvre, faute d'enseignement sérieux aux Beaux-Arts pendant les années 60. Ses toiles aux accents tantôt fantastiques, tantôt mystiques, sont remarquées à New York par le marchand d'art et galeriste Léo Castelli, qui imposera notre homme sur la scène internationale. Des expositions dans des endroits prestigieux suivront, ainsi que la réalisation du rideau de scène du Théâtre du Châtelet et des rétrospectives à Los Angeles et à Tokyo. En 91, il crée avec son épouse Elisabeth l'association éducative La Source, qui promeut l'art au service du social et de l'enfance et organise des ventes aux enchères. Pour l'association, il vient de réaliser une série de 30 tableaux intitulés Le Sourcier, en collaboration avec le studio EBB, c'est presque Eva Bester, mais bon, si j'avais un doppelganger, et l'intelligence artificielle à laquelle il a dicté tous les détails de son univers et confier son imaginaire. Ajoutons qu'il a aussi créé une œuvre monumentale pour la BNF, réalisé les vitraux de Notre-Dame de Talent, illustré Don Quichotte pour les magnifiques éditions Diane de Sellier et publié avec Judith Pérignon L'Intranquille, portrait d'un fils d'un peintre d'un fou qui revient sur sa bipolarité. Le membre de l'Académie des Beaux-Arts a eu une belle rétrospective au Centre Pompidou en 2022, notamment grâce à l'insistance de son galeriste Daniel Templon, qui est venu dans cette émission et qui a rendu notre invité un peu embarrassé, enfin presque. Les spectateurs, eux, ne l'ont heureusement pas été du tout. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Gérard Garouste.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
La dernière chose que... écoutez, c'est simplement une conversation que j'ai avec, je comptais vous en parler, de Pierre-Henri Salfati, avec qui je travaille. Et on a eu récemment une conversation qui est tellement juste sur les, à la fois, pardon, vous me posez une question, je suis obligé de répondre dans
Bien
les
sûr.
Détails.
Mais alors, il faut donner le contexte aux auditeurs. Peut-être il faut dire que vous étudiez depuis longtemps l'hébreu et le judaïsme,
oui.
Que vous n'êtes pas juif.
Non,
que
enfin,
vous...
je le suis devenu.
Vous l'êtes devenu,
oui.
Pour réparer une chose un peu historique et familiale, puisque votre père était de l'autre côté.
Oui, complètement.
Je vous laisse le rappeler.
Oui, écoutez, en effet, mon père était collabo. Et mais c'est une sorte de enseignement à l'envers qui m'a donné, parce que ça m'a donné justement envie de dire mais c'est quoi un juif, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc en effet c'était très antisémite dans ma famille, et donc je suis rentré par différents événements dans l'étude, et plus je rentrais dans l'étude, plus je trouvais ça complètement passionnant, jusqu'au jour où j'ai décidé, avec mon professeur, qui était pas un chercheur, mais qui était un professeur d'hébreu, tout simplement, et j'ai décidé, tout d'un coup, en discutant avec lui, de me convertir au judaïsme, vraiment, c'est-à-dire de changer ma religion, de trouver ma religion, parce que je n'avais pas choisi celle d'avant, comme les enfants.
Et combien de temps ça prend de se convertir au judaïsme? C'est un long apprentissage.
Oui, bien sûr. Écoutez, en tous les cas, au moment où j'ai décidé de me convertir au judaïsme, il y a un enseignement précis qui a duré 2 ans. Mais ça, c'est petit, parce que il y en a qui demandent encore plus de... Mais enfin, comme j'avais des bases, justement, en ayant appris l'hébreu, parce que ça fait plus de 25 ans que je travaille l'hébreu, mais je suis un très mauvais... je parle très peu de choses, mais par contre, je connais bien les mots, je connais bien la syntaxe, la grammaire, etc. Donc je rentre avec plaisir dans l'hébreu, et avec tous ses sens, donc ça c'est important. Mais par contre, moi je vais dans une café en Israël, si je rentre dans une brasserie pour demander un café, j'hésite, enfin je suis pas du tout doué.
Vous dites en hébreu biblique.
Non, même pas. Et moi dit, mais c'est pas plus mal, comme ça tu touches pas à l'hébreu biblique. Bon, très bien. Mais enfin, je suis vraiment nul. Je suis pas doué pour les langues. Je suis assez, mais j'adore les mots, j'adore
la structure.
Et j'adore cet esprit de l'hébreu à travers la Torah, bien sûr.
Et est-ce que vous vous souvenez de cette conversation qui vous a tant réjoui alors avec votre maître ?
C'était sur la circoncision. Et tout d'un coup, j'ai réalisé quelque chose. Parce que, vous savez, Yitzhak, le fils d'Abraham, a été circoncis à 8 jours. Vous allez voir, ça tombe dans l'actualité. Yitzhak a été circoncis à 8 jours. Et son frère, qui était son aîné, qui avait 16 ans, Ismaël, lui, il avait 16 ans. Et Abraham, qui venait lui aussi d'être circoncis, mais lui il avait 100 ans, et donc voilà, il décide de faire circoncire ses deux fils, donc pratiquement en même temps, les deux fils ont été circoncis. Mais il y a une grande différence entre les deux, c'est que Yitzhak n'avait que 8 jours, donc il était inconscient de ce qui lui arrivait, alors que Ismaël, ayant 16 ans, lui, il était conscient de ce que l'on faisait, et il l'avait souhaité d'une certaine manière par éducation, il l'avait souhaité. Et donc, c'est ça la grande différence. Ce qui fait que Ismaël et les Ismaélites ont toujours eu cet avantage sur le judaïsme. C'est qu'ils sont, ils ont eu cette petite note voilà, du destin qui fait que Ismaël est le premier à être conscient d'avoir été circoncis, etc., avec toutes les conséquences, c'est-à-dire par la circoncision, il rentrait dans un homme accompli, parce qu'un homme sans circoncision n'est pas terminé, selon la Bible. Tandis que là, voilà, et pour cette situation-là, eh bien, pour les Juifs très très informés, j'ai envie de dire, ce qui se passe actuellement en Israël, c'est exactement ça. Mais en même temps, pour vous donner un exemple, tous les lieux saints d'Israël sont occupés par des mosquées. Tous les lieux saints sont expliqués. Même le Saint des Saints est occupé par des mosquées, on pourrait se dire.
Je suis très mauvaise en religion, mais Ismaël, c'est l'ancêtre de l'islam.
Ismaël, c'est le frère d'Yitzhak, mais le fils d'Abraham, hein, d'Abraham, et de la, de, vous avez dit, enfin, de la servante, oui, de Sarah, qui s'appelle comment, je vais m'oublier, enfin, peu
j'ai
importe.
J'ai parfaitement oublié, mais je suis très
c'est en effet très important. Et Dieu lui a dit, mais tu vas voir, ne t'inquiète pas, ton fils vivra et aura une descendance, etc. Mais le détail important, c'est que Ismaël, en même temps, a cette chance d'avoir... c'est par l'islam qu'il y aura une reconnaissance d'Israël dans la fin des temps. Dans la fin des temps, c'est justement du côté de ce frère qu'il y a une reconnaissance d'Israël. C'est très étrange, hein, vous pensez bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord.
Non, évidemment.
Mais moi, personnellement, par rapport aux études que j'ai faites avec un maître, Pierre-Henri Salfati, je comprends cette interprétation, mais une interprétation des Écritures.
Alors, on me souffle que la mère d'Ismaël s'appelle Agar.
Agar.
Ce qui me fait penser à un groupe que j'adore qui s'appelle Agar Agar, mais ça n'a rien à voir. Et je voulais aussi rappeler cette merveilleuse blague d'André Markovitch. C'est l'histoire d'un juif qui rencontre un autre arabe. Et là, je passe à la suite, Gérard Garoust. Petit, pour des raisons de santé, vous étiez allé vivre chez un oncle en Bourgogne, une sorte d'artiste naïf qui tapissait les murs de sa chambre avec le papier des paquets de cigarettes et qui peignait les meubles. Et je voulais savoir si ça vous avait influencé.
Ah, beaucoup. C'est même grâce à lui que je suis artiste. Parce que justement, il savait pas que c'était un artiste et on n'a pas conscience d'être un artiste. Et il m'a transmis cette liberté. Il était très naïf, hein. Il n'osait pas poser dans un petit village près d'une ville qui s'appelle Pouilly-en-Auxois, une petite ville, et il n'osait pas passer devant l'office de la banque parce qu'il avait peur que le banquier sorte et lui prenne de force son argent. Enfin, il était très particulier. Il a jamais cru que les Américains avaient été sur la Lune. Non, ça c'est de la fantaisie. C'est impossible que les Américains. Donc il avait une psychologie très drôle et en même temps passionnante parce que, par exemple, il faisait un dessin par an pour voir s'il n'avait pas perdu la main et il dessinait toujours un lièvre parce que c'est un chasseur et il avait un fusil à un coup. La chasse avec lui, c'était extraordinaire de l'accompagner. Et il faisait un lièvre par an. Et voilà, il était content. Il avait fait son dessin par an. C'est assez étonnant.
Alors, je reste un peu dans le passé. Dans les années 90, dans votre atelier, on trouvait épinglé sur l'échafaudage en bois que vous aviez construit pour peindre des grands formats, des reproductions d'œuvres que vous aimiez, le Gréco, Andy Warhol, Duchamp, une photo de vos enfants, l'extrait d'une lettre de votre fils aîné. Et je voudrais savoir ce qu'on trouve aujourd'hui dans votre atelier comme image, en dehors des vôtres.
Dans mon atelier. Alors vous savez, j'ai trois ateliers. Un atelier pour la gravure, et puis il faut faire des dessins pour écrire. C'est à l'intérieur de ma maison. Et puis un grand atelier, en effet. Alors dans le plus intime, c'est l'atelier de gravure, justement, ce que j'appelle le studio. Et là, en face de mes étagères, il y a différentes photos, et c'est surtout des photos de ma famille et de mes enfants avec leurs enfants et leurs femmes. Et c'est un bonheur, quoi. Moi, je voulais pas d'enfants quand j'étais jeune, mais ma femme, que vous connaissez sans doute, Elisabeth Garoust, m'a pas donné le choix. Elle me dit, si tu veux vivre avec moi, moi, il me faut des enfants, sinon on se quitte. Et c'était aussi raide que ça, parce que moi, je voulais pas d'enfants. Je trouvais que j'étais pas capable d'en avoir. Et j'avais raison, d'ailleurs.
Mais pas de regret, tout de même.
Ah, maintenant, je suis fier et heureux. Et la preuve, c'est que j'ai mes enfants et leurs femmes. Et mes petits-enfants, j'ai quatre petits-enfants et j'en suis très heureux.
Félicitations.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Gérard Garoust, votre parcours à l'école est assez singulier, puisque petit, vous disiez que le dessin vous protégeait, vous étiez très mauvais à l'école, mais vous vouliez impressionner votre maîtresse et ça vous protégeait. Et puis dans le milieu des années 60, début 70, vous étiez aux Beaux-Arts, dans l'atelier du peintre abstrait Gustave Singier, et vous dites qu'à cette époque, l'école était tellement iconoclaste qu'elle voulait apprendre à casser les images avant d'enseigner la technique, et aussi qu'à cette époque, vous preniez tous pour des génies, et comme les génies n'ont pas besoin d'apprendre, vous n'aviez rien appris.
C'est exactement ça. C'était une très mauvaise période, puisque c'était autour de 68, avant, après, etc. Et donc, tout le monde perdait la tête. Et donc, ça, c'est très inquiétant, parce que du côté de la musique, par exemple, le conservatoire a gardé un peu ce... Pour apprendre la musique, il faut quand même...
Une rigidité, les notes, une discipline.
Tandis que la peinture, en effet, tous les élèves se prenaient pour des génies, et donc ça donne des résultats assez catastrophiques. Donc, on est condamné à être autodidacte et j'allais...
Au Louvre.
Au Louvre, justement. J'allais au Louvre copier des tableaux et je me faisais même disputé par les gardiens parce que un jour j'ai eu la mauvaise idée de regarder un Gréco, le seul Gréco qu'il y a, de le regarder avec une loupe. Regarder une loupe, un tableau dans un musée, non.
Ah bon?
Non, il ne faut pas. Ou alors il faut demander une autorisation spéciale
et puis aller le voir
le mardi, peut-être, c'est possible, mais moi, aller comme ça dans un musée avec une loupe, vous verrez, ça vous n'allez pas loin.
Bah écoutez, je vais essayer.
J'ai été mis en pension, une pension très étrange, tout était faux. C'était des gens qui avaient construit un collège comme les collèges anglais, les finishing schools, très avec châtiment corporel et tout ça. C'était assez ridicule, mais terriblement douloureux aussi, parce que marche au pas à 6 heures du matin, lever des couleurs, les élèves étaient nommés pions, finalement, pour surveiller les autres. Donc tout ça, ça faisait une espèce de mafia, d'omerta à l'intérieur. C'était très étrange. Simplement, il y avait quand même des tas de gens qui avaient atterri là, qu'on ne savait pas où mettre. Et comme toujours, parmi ces gens un peu ratés, un peu voyous, un peu, comment dirais-je, qui ne réussissaient pas leur scolarité, il y avait des gens passionnants. Et parmi ces gens passionnants, il y avait celui qui est devenu mon meilleur ami, Gérard Garros, mais il y avait aussi Modiano. Mais vous voyez, ces amis-là, on a été proches très rapidement, on s'est retrouvés, on s'est reconnus très rapidement. Ça va vous sembler étrange, mais la porte d'entrée de notre amitié, ça a été le sens de l'humour, ça a été le second degré. Et à partir de là, on avait confiance, on savait qui on était, et on pouvait aller plus loin et se dire des choses beaucoup plus fortes. Ça a été très important, ça. On riait tous ensemble. La manière dont on envisageait le monde et la distance qu'on y prenait, ça a été le ciment de notre amitié.
Ouais.
C'est Jean-Michel Ribes qu'on entend dans Un Voix Nue sur France Culture au micro de Jérôme Clément en 2021. Gérard Garous, vous avez d'abord fait du dessin d'humour avec lui, et vous l'avez peint d'ailleurs sur un tableau où vous crachez un bras.
Oui, j'ai fait plusieurs tableaux de lui, même la rétrospective du Centre Pompidou, il y avait son portrait, c'est vraiment à la fois un signe d'amitié, comme ça, où vraiment je connais tellement son visage par cœur que c'est ça, faire de la peinture, c'est de créer en plus du lien vraiment très fort.
Vous l'avez fait sans photographie, sans le...
Ah si, sinon il a posé pour moi.
Ah oui.
Il a vraiment posé pour moi. Et donc, même dans la manière dont il a posé, j'ai aussi des photographies. C'était une époque où on a fait un film qui est passé sur la 5 et Calmette et ce metteur en scène a fait un film, et on voit cette scène où je peins Jean-Michel, parce qu'il avait déjà fait plusieurs tableaux avec lui, et à un moment donné, il est allongé sur une espèce de banquette, avec une espèce de... Comme c'était dans Pique, il fallait qu'il ressemble à Don Quichotte, il avait une espèce de casque un peu bizarre, il avait l'air totalement ridicule, et moi, c'était un parfait modèle.
Alors là, bon, j'ai envie de vous parler de Don Quichotte, mais je vais attendre la fin de l'émission pour m'approcher de ce thème. J'aimerais encore parler de lui, puisque je crois que... Alors, vous êtes très sensible aux rêves. D'ailleurs, vous avez un univers très onirique qui est tout de même... qui flirte avec le surréel, le surréalisme, l'inconscient. Et en 77, vous avez décoré... vous avez mis en scène d'abord un spectacle au Palace, au mythique Palace, le classique et l'indien, et vous avez décoré le restaurant discothèque avec votre épouse. C'était votre premier gagne-pain sérieux, ça vous était reproché par le milieu de l'art, puisque c'était très mal vu d'être décorateur à l'époque, et c'est justement Jean-Michel Ribes qui vous a donné la signification d'un rêve pour justement l'indien et le classique. Oui. Vous pouvez expliquer ?
Oui, j'avais fait un rêve et en me réveillant le matin, je m'en souvenais très bien, et il y avait une voix vraiment paternelle, une voix d'autorité qui me disait, tu sais, dans la vie, il y a deux sortes d'individus, des classiques et des indiens. Et vraiment, c'était très net. Je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que... Je me souvenais de mon rêve, et je me dis, mais c'est des classiques et des indiens, mais quel est le rapport? Des classiques et des romantiques, ou je sais pas quoi, des modernes, mais des indiens, ou alors des indiens et des cow-boys, par exemple. Et c'est Jean-Michel Ribes qui, ayant fait une licence d'espagnol, il me dit, mais t'as fait un jeu de mots entre classique et cacique. Parce qu'un cacique, c'est un chef indien, d'une part, et d'autre part, un cacique, si vous prenez un dictionnaire, un cacique, c'est quelqu'un qui réussit partout dans la politique, c'est quelqu'un qui a une costume, un cravate, etc., et qui un type brillant, quoi. Et donc, entre le classique et le cacique, tout d'un coup, on voit très bien le rapport, le jeu, mais c'est assez étonnant. Une des premières choses qui m'a surpris, c'est que j'ai dû rencontrer ce mot classique. Mais je l'avais oublié, je l'avais censuré, et je le retrouve dans mon rêve, et il faut que ça soit un ami qui m'explique mon rêve pour comprendre ce dont j'ai rêvé. Et ça m'a tellement influencé que j'ai fait beaucoup de choses à partir de ce classique indien, Dante...
Orion, le classique Orion l'Indien.
Voilà, par exemple. Et puis, vous savez...
C'est l'apollonisme et le dionysiaque.
Oui, exactement. Et tout simplement, ça, c'est exactement
le
ça.
Le chaos et l'ordre et l'harmonie. Et vous vous situez entre les deux. Comment faites-vous? Puisque la dernière fois que je vous ai vu, c'était dans Remède à la mélancolie. Oui. Et vous aviez évoqué le fait qu'avec votre bipolarité dont vous parlez dans l'intranquille, vous deviez éviter les émotions fortes.
Oui,
où en êtes-vous aujourd'hui?
J'évite toujours les émotions fortes et je continue à aller une fois par mois à l'hôpital qui me soigne et dont le psychiatre est devenu un ami. Et le professeur Bellet, pour ne pas le citer, le professeur Bellet à Sainte-Anne. Et donc, il faut quand même que tous les mois, j'aille faire un petit peu... Parce que une crise de délire, c'est selon les médicaments que je prends, il faut faire très très attention.
Donc vous essayez tout de même plutôt d'être parfois un cassique ou un classique et pas trop indien.
Non, moi j'essaye de mon tempérament naturel, c'est d'être un indien.
Bien sûr.
Pour être peintre et tout ça. Et les classiques m'emmerdent un peu, compris quand moi-même je suis un trop classique. Donc j'arrive à garder cette valeur de l'indigne en moi. Et puis, mais c'est assez drôle parce que dans la littérature, on retrouve souvent ces thèmes-là dans Faust, par exemple Faust et Méphistophélès. Méphistophélès, c'est presque un jeu de mots avec Faust, on entend. Et c'est le classique et l'indien, le démon. Enfin, et puis, vous savez, tout simplement, d'ailleurs j'en ai fait un portrait, au cirque, l'Auguste et le clown blanc, c'est le classique. Alors là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, l'Auguste, c'est lui qui fait rire. Et puis le clown blanc, c'est lui l'autorité. Il est blanc, il est avec des paillettes, il a toutes les qualités que peut voir un enfant. Et puis celui qui fait rire et pour qui le spectacle est fait, c'est l'Auguste. Et donc pour moi, j'en ai fait le portrait des deux clowns célèbres au début du XXe siècle. Et j'ai même rien fait j'ai été le plus précis possible dans ce portrait, mais j'ai pas voulu d'interprétation. J'ai vraiment respecté ces deux images parfaites.
C'est avec René Drouin que j'ai commencé ma première galerie. Il était architecte, designer, n'est-ce pas? Il faisait surtout des meubles, des intérieurs. Et je l'avais rencontré à ce moment-là, j'étais à Bucarest. Comme ça, on est devenus très amis. Et puis quand je suis arrivé en France en 36 à Paris, et que j'étais très mécontent de ce que je faisais, c'était d'abord les assurances, ensuite la banque, et que j'avais toujours d'autres ambitions. En bavardant avec Drouin de projets, de choses à faire, on a décidé d'ouvrir une galerie. Et alors là, on a préparé notre première exposition qui consistait... On avait eu l'idée, n'est-ce pas, comme à ce moment-là, l'art déco battait son plein, enfin faire des ambiances où il y aurait non seulement des meubles, mais aussi des œuvres d'art bien choisies par nous. Alors il a fabriqué pas mal de meubles, et puis on est tombé entre les mains des surréalistes qui, à ce moment-là, dominaient la scène. De sorte que notre première exposition était basée surtout sur des meubles dessinés par Drouin et aussi d'autres, et puis des objets et des peintures surréalistes.
C'est Léo Castelli qu'on entend sur France Culture au micro de Jean Dev en 1985. Gérard Garouste, il vous a découvert lors d'une exposition à New York et il a participé à vous exposer sur la scène internationale.
Oui, oui. C'était d'ailleurs la première galerie que j'ai eue à New York et c'était vraiment formidable parce que, vous savez, le jour du vernissage, il y avait 8 galeries françaises qui exposaient en même temps. Ça avait été une initiative du ministère de la culture français, enfin avec la responsabilité de Léo Castelli. Et dans le tableau que j'exposais à Dara, qui est un grand tableau,
une sorte de Fragonard surréaliste très sombre avec une tempête. Enfin,
oui,
il y a yeux bandés.
Oui, il y a l'Indien qui a les yeux bandés dans l'ignorance, mais c'est lui qui a une des clés. Il a dans les mains un polyèdre et le tableau lui-même est composé comme une constellation, la constellation du chien. Mais on voit pas ça parce que c'est en sous-couche. Mais voilà, c'est présent dans le tableau sans qu'on puisse le voir. Bon, et tout ça, le tableau a très bien fonctionné à New York et les marchands venaient me voir en me disant est-ce que le vieux lion a vu votre tableau? Moi, je savais pas qui était le vieux lion, et je ne savais pas. Et il me dit, bon, écoutez, si le vieux lion s'intéresse à votre peinture, bon, ok, il va vous prendre. Mais s'il n'est pas intéressé, contactez-moi, parce que moi, j'ai envie de vous exposer et tout ça. Je me suis dit, mais c'est qui ce fameux vieux lion? C'était Léo Castelli.
Ah oui.
Léo Castelli. Et Léo, alors, c'était, pour moi, j'avais l'impression d'être dans un film de la mafia, parce que ce vieux monsieur très élégant, très sympathique, vient me voir, il me dit, votre tableau a eu beaucoup, beaucoup de succès. Nous allons travailler ensemble.
Demandez votre avis.
Mais vous savez, on sera obligé de leur donner quelque chose parce que vraiment, c'est eux qui vous ont trouvé comme ça. Il faudra. Je ne discutais pas. Et très rapidement, il m'a dit, mais vous vivez de la peinture, vous pouvez vous installer à New York. Je lui ai dit, ah non, vous savez, moi, je fais des décors de théâtre à Paris. Et il me dit, et si, combien il vous faut par mois pour faire que de la peinture? Alors, je lui ai dit, mais il me faudrait tant par mois. Il dit, bon, écoutez, vous allez recevoir cet argent systématiquement tous les mois en attendant notre exposition qui a eu lieu un an après.
Quelle belle rencontre!
Oui, importante. Ça change une vie parce que là, je dans les galeries, qui étaient une bonne galerie, mais pas connue du tout, la galerie Durand de Serre, qui était une vraie bonne galerie en même temps, mais elle ne me faisait pas vivre, tout simplement. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez sur la scène internationale, vraiment. Alors tout d'un coup, tout change, tout absolument change dans cette profession.
Notamment, par exemple, le fait que vous ayez été choisi sur une proposition de Philippe Starck pour peindre la chambre de Danielle Mitterrand, qui était alors première dame de France. Et aujourd'hui, c'est devenu une salle de sport que vous avez pu visiter avec Brigitte Macron. Est-ce qu'il y a toujours votre peinture ?
Oui, écoutez, pour l'instant, je l'ai vue et elle est toujours là. C'est le thème de ce plafond avec une retombée comme ça, assez importante. Ça s'appelle la cinquième saison. Voilà, c'était toujours une ambiance de mythologie comme ça, mais juste une mythologie romantique, enfin je sais pas romantique, mais en tous les cas bucolique. Voilà.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bien sûr, mon éducation religieuse protestante due à ma mère m'a beaucoup marqué, on peut y revenir dans le détail. Le fait d'avoir un père au sommet du combat et au sommet de l'honneur, un immense résistant, en même temps qu'un très très grand savant, est une espèce de dignification que j'ai portée toute ma vie, et qui m'a sûrement créé le besoin et l'envie d'avoir un destin à la hauteur de ce que j'ai reçu. J'ai assez vite compris que je n'avais pas reçu les mêmes dons de la nature, et que si je voulais suivre ma voie à moi, il fallait explorer d'autres disciplines. J'étais nul en maths, comme on dit à l'époque, et donc incapable d'entrer dans la science. La science était le monde décisif. Ça continue d'ailleurs à être le lieu, l'activité qui change le monde. Nous, les politiques, nous ne sommes que des accompagnateurs. On est bien rarement des créateurs.
Et justement, vous en êtes un de créateurs, Gérard Garouste. On entend Michel Rocard sur France Culture au micro de Jean-Michel Djan en 2013. Et en 91, il était Premier ministre sous Mitterrand. Et Il vous a aidé à créer l'association La Source avec votre épouse. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et la prise de conscience que vous avez eue un hiver en Normandie?
Oui, c'était un hiver en Normandie et bon, on n'était pas depuis longtemps installé dans un petit village. Et il y a l'adjoint du maire est tout de suite venu nous voir, on se connaissait pas. Il nous dit, écoutez, dans le village, il y a une famille, on est en plein hiver, il y a une famille qui est dans la gare désaffectée et il y a une famille là qu'il faut faire quelque chose parce qu'il y a pas de carreaux aux fenêtres, il y a pas de chauffage et on peut pas laisser ça comme ça. Donc je dis, mais vous connaissez quelques personnes dans le village? Il me dit oui. Alors on réunissait-les et puis on se retrouve dans cette gare et on s'est retrouvé dans la gare, en effet, et j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup marqué, que je retrouvais d'ailleurs, que j'avais connu dans mon enfance en Bourgogne, c'est-à-dire que c'est des enfants grelantants de francs, et puis une mère assez alcoolisée, et on a, avec les personnes du village, on a colmaté, on a bouché un peu les fenêtres avec n'importe. Et j'ai tout de suite demandé, mais attendez, il y a toujours un éducateur qui s'occupe de cette famille. Elle me dit, oui, si vous voulez, on peut vous le présenter. Et moi, j'étais prêt, le lendemain, on me l'a présenté, c'est l'éducateur, et j'étais prêt à l'engueuler. Je lui ai dit, non, écoutez, vous pouvez pas laisser. Et on s'est vu le lendemain, il me dit, mais vous semblez avoir des bonnes idées. Dites-moi ce qu'il faut faire, parce que moi, j'ai pas un rond, hein. Dites-moi ce qu'on fait et tout ça. Alors, le hasard faisait que c'était les périodes justement où je travaillais pour Michel Rocard. Je faisais une carte de vœux pour Michel Rocard, c'était très bien. Donc, je pouvais être en face de lui et je lui ai raconté ce que je viens de vous dire. Et qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, écoutez, je vais vous mettre en contact avec mon chef de cabinet, Dominique Lefebvre, et à mon avis, faites une association. C'est la chose. Donc, sous les conseils de ce Dominique Lefebvre, on a créé une association avec toutes les règles. Bon, j'y connaissais rien, donc vous avez tout un protocole, etc. Et on l'a fait. Et voilà, et puis voilà, maintenant La Source a plus de 30 ans.
Alors j'ai choisi de mettre Computer Love de Kraftwerk, qui est un morceau assez ancien, mais pour introduire ce que vous venez de faire justement pour La Source, Gérard Garouste, en collaboration avec le studio EBB, fondé par l'artiste contemporain Neil Belloufa, puisque vous avez réalisé une série de tableaux avec l'intelligence artificielle, une série intitulée Le Sourcier, et vous avez défini l'ensemble des éléments qui allaient composer ces œuvres et vous avez paramétré l'intelligence artificielle. Alors, racontez-nous la jeunesse de ce projet.
Écoutez, vous savez, maintenant mon fils aîné, Guillaume, est le directeur de toutes les sources. On a 10 sources en France. Et c'est lui, donc, qui s'occupe de toutes les activités de La Source avec les artistes. Un atelier, c'est une dizaine d'enfants, des artistes qui dirigent un peu tout ça. Et il me dit, écoute, je connais un artiste, Neil Belloufa, qui serait prêt, qui est dans l'intelligence artificielle avec une équipe, les ordinateurs et tout ça. Et il trouve que ça serait bien de faire un projet avec toi en tant qu'artiste et de mettre ton œuvre dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Alors moi, l'intelligence artificielle, ça m'amuse plutôt. Je pourrais vous dire les raisons précises pour lesquelles ça m'amuse, mais en tous les cas, j'ai dit tout de suite à mon fils, ok, présente-moi Neil Belloufa. Neil Belloufa, en effet, il me pose des questions, je lui dis, écoute, tu disposes de tout ce que j'ai fait, t'as tout en photo, tu fais ce que tu... Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est un maximum de documents. Je lui ai tout donné, même mes croquis de carnet, je lui ai absolument tout filé. Et ensuite, après, il a fait, avec son équipe, ils étaient trois, il m'a montré sur l'écran des choses qu'il proposait. Alors, c'était très drôle, parce que tout d'un coup, c'était des espèces de fouilles garoustes. Et là, j'ai eu une attitude avec l'intelligence artificielle de professeur. C'est-à-dire, ah non, ça, je ferai jamais une chose comme ça. Il faut que la jante soit un peu plus relevée. Là, ça tombe pas. Moi, ça fait pas partie de mon écriture. Il faut quand même que tu sois dans mon écriture. Alors, il corrigeait tout ce que je pouvais dire. Et on arrivait à un moment donné à quelque chose de très concluant. C'est-à-dire, vraiment, ça pouvait être... Alors, on a fait une édition numérotée signée Pour la source, moi ce qui m'intéressait, c'était évidemment de penser un petit bénéfice pour la source.
Donc il y a 30 exemplaires ?
Oui, 30 exemplaires signés, numérotés. Je crois que même la première série, c'était 60 exemplaires, je crois. Et je les signe Outrage. Outrage, c'est l'anagramme de Garouste, et c'est c'est l'anagramme de Garouste, Outrage. Alors je trouve ça très bien pour mon expérience dans l'intelligence artificielle de signer ça, Outrage. Et j'étais très content, j'étais tellement content que je me suis dit, mais alors moi je vais m'inspirer maintenant de l'intelligence artificielle pour faire d'autres tableaux, allons encore plus loin.
Et ça ne vous fait pas peur du tout ?
Ça ne me fait pas peur du tout. Alors là, pardon, il faut que je vous dise pourquoi ça me fait peur.
Alors dites-le nous.
Parce que l'intelligence artificielle, rien que l'expression me fait rire. Vous savez, dans la musique, on peut adorer la musique, sans être musicien. On peut adorer la musique. Eh bien, la kabbale, c'est pareil. Moi, j'adore la kabbale, mais je ne suis pas kabbaliste. Mais j'ai eu des maîtres dans la kabbale, et le maître que j'ai actuellement, qui s'appelle Pierre-Henri Salfati m'initie à la kabbale, parce que lui, c'est le mouvement Rabat, donc il est très impliqué dans la... Enfin, c'est son truc, la kabbale. Il n'aimerait pas que je dise ça comme ça, mais enfin, c'est quand même pour vous expliquer que il y a dans la kabbale qui vient de la nuit des temps, il y a un état d'esprit qui est... où il n'y a pas de différence. L'intelligence artificielle, c'est l'intelligence tout court.
Parce que c'est l'unité du monde, c'est ça ?
Oui, vous savez, par exemple, dans la kabbale, il y a ce fameux golem.
C'est une créature d'argile.
C'est une créature d'argile.
Vous l'avez représenté, d'ailleurs, le golem.
Je l'ai représenté, le golem, exactement. Je l'ai peint. Il y a Kafka qui en a fait un début d'histoire. Il n'a pas fini son histoire, mais... Et puis, ça vient du maître de... j'ai toujours des problèmes avec les noms, ce golem, il a toutes les qualités d'un serviteur, simplement il n'a pas l'intelligence. Et donc il a écrit sur son front « Emmet », qui veut dire la vérité, alors vous lui demandez que... Et il fait ça, et puis quand vous avez fini de vous en serrer, vous effacez la première lettre, Aleph, et reste Met. Met, ça veut dire la mort. Et donc, Emet, ça veut dire la vie, mais ça veut dire aussi je suis mort. Vous voyez, c'est ça l'hébreu. Il y a un mot en hébreu, c'est 5 significations minimum. Donc, vous voyez bien qu'un texte, ça a une multitude d'interprétations, et ça se travaille pas tout seul, il faut travailler avec des maîtres. Donc, ce coup de l'intelligence, d'ailleurs, c'est pas un hasard si un des premiers ordinateurs en Israël s'est appelé le Golem, parce que le Golem, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, voilà. Et depuis, on continue avec l'intelligence artificielle, mais ça ne bluffe pas un kabbaliste, c'est loin de le surprendre.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. Mm-hmm.
You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
C'est votre choix musical qu'on entend, Gérard Garouste, I Walk the Line de Johnny Cash.
Oui. Oui, j'aime beaucoup Johnny Cash. Tout simplement ses poèmes qu'il chante, etc. Et puis son esprit, j'aime beaucoup ça. C'est un côté justement en marche, comme ça, en marche. Et là, c'était pour une prison, il avait chanté dans une prison. Et puis tout simplement, sa musique, c'est un univers que j'aime. J'aime pas trop la musique française, sauf quelques personnages comme ça. Mais là, Johnny Cash, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup.
Et voici quelqu'un d'autre que vous aimez et qui n'est pas français non plus. On entend le prélude du Gürlieder d'Arnold Schönberg, dirigé par Edward Gardiner et interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berghain, qui n'est pas que une boîte de nuit, évoquée par Rosalia dans son dernier album. Gérard Garouste.
Écoutez, simplement, pour moi, j'ai eu beaucoup de mal avec la musique contemporaine. Et Arnold Schönberg, c'est un des derniers où j'aime beaucoup. Quoi. Là, vraiment, j'ai une passion. En plus, les thèmes qu'il a là sont des thèmes bibliques. Et ça, j'aime bien. Sur Moïse, Aaron, des choses comme ça. C'est des thèmes... vous savez, pour moi, ce qui est important, c'est pas dans la mythologie, on est dans l'écriture. Et là, Schönberg joue avec ça parce que la musique est très proche de l'écrit.
Vous vous dites que vous pénétrez la mythologie pour la pervertir.
Ben, en tous les cas, c'est pas la mythologie qui m'intéresse. Comparer la Bible avec les dieux grecs, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, dans la Torah, c'est-à-dire dans le Pentateuque, mais appelons les choses par leur nom, dans la Torah, Dieu n'existe pas. Dieu est un mot de traduction, etc., pour faire un peu grec, justement, ou latin. Mais Dieu, c'est une ellipsie. Il y a un texte, à vous d'avoir... la partie de rêve, etc., la partie extraordinaire de la Torah, qu'on peut aimer. Moi, j'aime beaucoup la Torah.
Mais qu'est-ce que Dieu, alors, dans la Torah ?
Vous s'en foutez de Dieu, vraiment. Non, mais vraiment, ce qui compte, c'est comment est écrit la Torah. Quels sont le sens des mots et les mots. Il faut pas... vous savez, il y a plusieurs niveaux de lecture. Le pshat, c'est le premier niveau, c'est-à-dire un enfant qui fait sa
barbe.
Sa première communion, eh bien, il peut lire la Bible dans le pshat. Mais ce qui compte, c'est le quatrième, cinquième niveau de lecture. C'est un peu comme les doigts de la main. Et le cinquième niveau de lecture, c'est de l'ordre d'une révélation qu'on se fait à soi-même. Là, ça demande tout un travail. C'est avant tout un travail. Et vous découvrez des choses très mystiques, mais en vous. Mais Dieu, encore une fois, Dieu, on s'en fout complètement.
Alors Gérard Garouste, on arrive presque à la fin de cette émission, il nous reste quelques secondes. Je vous l'ai dit en introduction, vous avez illustré Don Quichotte de Cervantes pour les très belles éditions Diane de Sellier. Et j'aimerais que vous nous recommandiez des lectures. Que lisez-vous en ce moment ou quels textes ont été très importants pour vous? Et il nous reste vraiment un peu plus de 30 secondes. Alors...
Bah, justement, Don Quichotte, c'est extraordinaire parce que, vous savez, Cervantes, c'était sans doute un marane, donc une connaissance justement de la Bible et justement de la Kabbale de cette époque-là. Ça se retrouve, on retrouve ça dans le texte quand on connaît un peu les choses. Et moi, j'aime pas les romans, mais j'aime justement des histoires qui sont là pour être interprétées, pour être travaillées. Alors tout ce qui est le Pentateuque, tout ce qui est la Bible, ou alors sinon d'autres des poèmes, encore une fois des textes sacrés.
Merci beaucoup Gérard Garouste. Je rappelle que vous avez réalisé une série de tableaux avec l'intelligence artificielle intitulée Le Sourcier, en collaboration avec le studio EBB et dont les ventes sont au profit de votre association La Source. Et en septembre 2026, vous offrez une grande exposition à la galerie Templon. Elle sera accompagnée d'un livre qui sera publié par les éditions Flammarion. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Alix Barrois.